culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son enfance l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue.
Ce soir, assalamu alaikum, on va parler de la tolérance entre les musulmans.
Tout à fait. Assalamu alaikum. Alors, comme pour moi, je serais de temps pour l'éditeur. Si j'ai la poste téléphone ou des émissions La Prophétie, oui, la tolérance qui doit exister entre les musulmans.
C'est un thème qui est important et qui doit nous être très cher parce que les musulmans doivent être une communauté. Une communauté soudée, on doit tous être des frères. Il n'y a pas de fraternité s'il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'acceptation de l'autre comme il est, avec ses imperfections, mais aussi avec ses qualités. Alors, quand on parle de tolérance, c'est parce qu'il y a des divergences, c'est parce qu'il y a de la diversité. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce fait accompli, cette vérité cosmique. La diversité est un fait qu'on ne pourra pas changer parce qu'il est le fruit de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés différents. Il nous a créés différents physiquement, mais aussi dans nos capacités intellectuelles, dans nos capacités de comprendre, d'assimiler, mais aussi au niveau des sentiments. Bref, nous sommes différents dans tous les domaines. Certes, certaines personnes peuvent être plus proches que d'autres, mais même celles qui sont plus proches, admettons que l'on prenne deux frères siamois, deux sœurs siamoises, des jumeaux, des vrais jumeaux, comme on dit, ben ils restent toujours différents. C'est parce qu'ils sont des vrais jumeaux au niveau biologique, qui seront de vrais jumeaux au niveau des sentiments, au niveau intellectuel. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre les êtres humains, c'est le côté de l'âme, pas le côté du corps. Donc, la différence, la divergence est naturelle, elle est normale car elle est le fruit de la volonté de Dieu, et d'ailleurs, elle est un signe de la grandeur de Dieu. Dans la sourate des Byzantins, Ar-Rum, Dieu dit « Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ardi wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum » Parmi les signes qui prouvent la grandeur et la puissance de Dieu, c'est que justement, il a créé le jour et la nuit. Donc il aurait pu créer juste le jour et nous permettre de vivre dans la clarté 24 heures sur 24. C'est pas impossible. Et regardez la divergence. Si il n'y avait que le jour, on en aurait marre. On se fatiguerait. C'est pour ça qu'il a créé plusieurs aliments. Dieu aurait pu créer un seul aliment qui renferme tous les besoins nutritifs de l'homme. Mm-hmm. Et puis, non. L'ikhtilaf, hein, la multiplicité, la divergence, c'est la preuve de la grandeur et de l'existence de Dieu. Car si c'était la nature, si on avait été créé par le pur hasard, le hasard ne réfléchit pas. On serait tous clonés. Hein, si on était le fruit d'un accident climatique, d'un accident biologique, géologique, ben on serait tous les mêmes. Il n'y aurait qu'une chose, il n'y aurait pas plusieurs choses. Hein, le fait qu'il y ait plusieurs créatures, le fait qu'il y ait toute cette diversité dans la création, c'est la preuve qu'il y a une volonté derrière, hein, qui fait des choix justement. Donc c'est un signe de Dieu, hein, l'alternance du jour et de la nuit, la différence des couleurs, la différence des langues, la différence des cultures, différence tout simplement des croyances, des religions, des comportements, etc. Il y a un hadith qui est sahih, qui dit que les êtres humains sont différents comme la terre. Les terres ne se ressemblent pas. Vous avez des terrains qui sont argileux, d'autres qui le sont moins. Des terrains fertiles, d'autres qui le sont moins. Des terrains rocailleux, d'autres qui le sont moins. Des terrains sablonneux, d'autres qui ne le sont pas. Ainsi, l'être humain est à l'image de la terre, car nous ne sommes que une addition de quoi d'éléments qui composent la terre. On est bien du fer, du calcium, du phosphore, on est un peu... Comme la terre est différente, elle est composée de plusieurs éléments différents, l'être humain est différent. Et le hadith va plus loin, il dit aussi, vous êtes différents même au niveau des caractères. Il y en a qui seront plus tristes que d'autres, plus joyeux. Il y en a qui seront plus durs, il y en a qui seront plus tolérants. Allez, c'est dans la nature de l'homme, les caractères ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai, on voit des gens qui sont par nature joyeux 24 heures sur 24, quels que soient les malheurs qui leur arrivent. D'autres, on dirait qu'ils sont prédestinés à être plus souvent tristes parce que c'est leur nature. D'autres sont zen, cool. D'autres qui sont nerveux. Et la religion, elle est venue quoi? Elle est venue peaufiner les caractères. La colère est normale et naturelle chez l'être humain. Ce que l'islam condamne, c'est l'excès de colère ou la colère qui n'est pas justifiée. D'accord? Parce que se mettre en colère quand il y a une injustice, c'est ça qui est normal. Mais rester les bras croisés face à une injustice, c'est un péché, c'est pas normal. D'accord? Donc, la divergence, la diversité, c'est la volonté de Dieu. Donc celui qui pense et qui croit ou qui a pour projet de mettre tous les êtres humains sur la même longueur d'onde, un, il rêve, il n'y arrivera jamais. Les prophètes n'ont pas réussi. D'accord? Et d'ailleurs, ils n'ont même pas cherché. Il n'est qu'à la terre d'Iman Ahbab. Dieu rappelle à son prophète cette vérité. C'est parce que tu aimes ton oncle et tu voudrais qu'il soit comme toi, qu'il le sera, qu'il le sera. C'est moi Dieu qui ai ce pouvoir de forcer les gens à devenir croyants, de forcer les gens à croire, à emprunter un chemin, le seul, l'unique, le chemin de la vérité. Mais je les ai laissés. Il y a plusieurs voies et je leur ai donné cette liberté de quoi? De faire le choix qu'ils voulaient. Donc, si le prophète, dans un premier temps, il voulait, par amour, que les gens soient tous guidés, Dieu l'a refroidi. En disant, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Le prophète se consumait de chagrin. Il en pleurait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas quoi? Mais il ne voulait pas marcher dans le même sens. Et Dieu lui dit, arrête, stop. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu les éclaires. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent avec cette lumière. Soit ils la consomment, ils l'utilisent, soit ils restent dans leurs ténèbres et ils ont le droit de rester dans leurs ténèbres. C'est pour ça, Hassan al-Basri, radiallahu anhu, qui n'est pas n'importe qui, Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ses paroles ressemblaient à celles d'un prophète. C'était un sage, Hassan al-Basri. Il a fait l'unanimité. Mais regardez, malgré le fait qu'il était sage, c'est l'élève de tous les compagnons, les grands, de Aïcha, de Ali ibn Abi Talib, on est venu lui dire, il y a un cheikh, il y a Hassan al-Basri, il y a des gens qui sont ici, qui assistent à tes cours, qui sont présents dans cette assemblée, et qui sont uniquement ici pour prendre note de quoi? De ce que tu dis? Non. De tes erreurs. Ils sont venus pourquoi? Pour filmer les erreurs qu'ils pourraient commettre, pour les mettre sur écrit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai espoir d'aller au paradis, je ne perds pas espoir. J'ai espoir de rencontrer au paradis tous les délices qui existent et je ne perds pas espoir. J'ai espoir que Dieu me pardonne et je ne perds pas espoir. Mais je n'ai pas du tout espoir de plaire à tout le monde parce que même Dieu ne plaît pas à tout le monde.
C'est
clair. D'accord. Même Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité chez tout le monde. Donc, puisque les gens ne sont pas satisfaits de Dieu, voire même ils le nient, ils le rejettent, ils l'insultent. Donc, de lui. D'accord. Donc, qui suis-je, moi? Donc, pour dire que et les êtres humains, ils sont comme ça, malheureusement. Ils ne viennent pas assister aux danses de Hassan al-Basri pour tirer profit. Ils viennent pourquoi? Pour... en fait, il est dans leur collimateur. Et ils ont des loupes spéciales, d'accord, qui essaient de multiplier par mille, de ragrandir ces erreurs. Donc, la divergence, la diversité, c'est un fait accompli. Maintenant, comment la gérer? C'est ça la question. Comment la gérer? D'accord. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, à travers une série d'interventions. L'imam al-Sha'bi, radiallahu anhu, qui lui aussi est un grand parmi les grands, il dit, si je disais 99 vérités et un mensonge, une erreur, si je me trompais une seule fois, il ne retiendrait que mon erreur.
Ouais,
et les 99, il les tairait. Oui, classe. Ils vont les faire disparaître. Pourquoi ? Parce que leur objectif, c'est pas de chercher la vérité, de prendre la vérité chez les autres, mais c'est ce qui ne va pas chez les autres. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie. Une maladie du nefs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit 4 péchés participent à la destruction de l'âme. Ils sont tous des péchés du cœur, les péchés du nefs. Et parmi ces 4 se trouve il y a jabul mar'i le nefsi, celui qui a la grosse tête, celui qui tombe dans l'autosuffisance. J'ai toujours raison, je suis un best, d'accord ? Tous les autres sont à côté de la plaque, et si vous ne pensez pas, vous n'adhérez pas, vous êtes excommunié d'office. Deuxième défaut de l'âme, le hadith, c'est celui qui suit ses passions. Celui qui suit ses passions. Et même lorsque son ennemi dit vrai, parce que c'est son ennemi ne veut pas reconnaître le bienfait de son ennemi. Pourquoi ? Parce que il ne recherche pas la vérité. Il recherche à satisfaire son ego, c'est-à-dire essayer de développer la haine et trouver un certain plaisir dans cette haine envers qui ? Envers cet ennemi. C'est pour ça, le grand Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit dans son livre Minhaj al-Sunna ? C'est-à-dire le chemin de la sunna, c'est-à-dire le vrai chemin que doit emprunter le croyant. Il dit, l'ignorant, donc il traite cette personne ignorante, d'accord, ressemble à la mouche. Une mouche, elle ne se pose que sur les blessures qui sont pleines de pus infectées. Hein, c'est-à-dire les mouches ne se posent que sur les teintes d'excréments, c'est-à-dire ce qui sent mauvais, ce qui est sale. D'accord ? Ne vont pas l'exposer sur ce qui est propre. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne voient chez les gens que ce qui ne va pas. Ce qui va ne les intéresse pas. Hein? Alors que l'aqil, le doué d'intelligence, yazinul umur, il pèse le pour et le contre. Il fait comme Dieu. On a da'ul mawazin al-qisti liyawm al-qiyam, dans Surat al-Anbiya, la balance. Les anges vont ramener la balance. Deux plateaux, plus, moins. Faman saqulat mawazinuhu, fahuwa fi 'ayshatin radiya. Faman khaffat mawazinuhu, fahuwa fi 'adhabin muqim. Les hasanat d'un côté, les sayyiat de l'autre côté. Vous voyez la justice ? Mieux, c'est que Dieu, les hasanat, il les multiplie par 10. Les sayyiat, c'est une sayyiat égale une sayyiat. Vous avez vu le... voire même par 70, non ? Voire 700 fois, voire plus l'infini, on ne sait pas. Et pour cela, Muawiyah, radiallahu anhu, quelqu'un un jour l'interpelle, il lui dit, viens Muawiyah, t'as attrapé des cheveux blancs ? Il lui dit, comment n'attraperais-je pas des cheveux blancs ? Avec des gens qui, lorsque je fais bien, ne m'encourage pas, ne me soutiennent pas, et lorsque je me trompe, ça fait le tour du monde. Parce que je fais une erreur. Le monde entier est au courant, vous voyez pas le monde, c'est-à-dire, en deux secondes, les gens envoient des textos. À l'époque, c'était, ils utilisaient un système qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le facteur. Il y avait des gens, leur travail, c'était quoi ? C'était
le colporteur complètement.
C'est le terme,
le colporteur.
Voilà. Ils n'ont rien d'autre à faire. Hein. Il fallait que l'information circule. Donc, il y avait des relais. Donc, on lui donne le texte. Il prend son cheval. Il fait courir le cheval au maximum sur 20 km. Il transmet le relais au suivant. Dans 24 heures, ça fait le tour de l'Empire musulman. Hein, c'était le... après, ils ont utilisé des pigeons aussi, des voyageurs. Hein, pour... aujourd'hui, c'est le texto, c'est ça.
Il n'y a rien qui a bougé, hormis la technologie.
Exactement. Qui facilite la transmission des péchés, des fautes et des erreurs.
Plus, un peu plus avec des mensonges. On rajoute comme un petit peu. Ce qui n'est pas bon, quoi. Ce que le pasteur disait, c'était vraiment ce qu'il disait. Ouais. Aujourd'hui même, ce que tu dis, il est transformé et même rajouté avec un peu plus de mensonges.
Tout à fait.
Ce que tu dis, puis dis, je peux donner du piment.
Donc pourquoi est-ce que je ne traiterai pas des cheveux blancs? En fait, c'est vous. Hein, c'est vous qui me démoralisez, c'est vous qui tuez mon moral. À cause de quoi? À cause de la responsabilité. Il y a une très belle histoire, un dialogue entre Muawiya, donc qui est calife, hein, Muawiya ibn Abi Sufyan, un compagnon, et Al-Miswan ibn Makhrama, radiallahu anhu, et Muawiya l'interpelle. Al-Miswan était très critique. Et ses critiques étaient publiques à l'encontre de Muawiya. Elle était sans pitié. Il ne faisait que critiquer Muawiya partout où il allait. Et quand il est tombé face à face à Muawiya, Muawiya lui dit, qu'as-tu, ya Miswan, à délier ta langue contre les gens qui font des efforts pour faire le bien? Il lui dit, je ne dis que la vérité, c'est-à-dire les erreurs et le mal que vous faites. Muawiya lui dit, et on ne fait pas de bien? Pourquoi tu dis que le mal? On ne fait pas du bien. Il dit, moi ce qui m'intéresse, c'est le mal que vous faites pour vous corriger. Il lui dit, mais Dieu, lui, quand il nous jugera, il mettra en avant le bien et le mal, et si le bien remporte sur le mal, on va au paradis. C'est ça? Si le bien remporte sur le mal.
C'est ça. Il y a un moment là, il va cacher des choses.
Mieux, c'est justement, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, et en plus, sache que Dieu efface le mal que l'on fait grâce au bien que l'on fait. Et la plupart de nos péchés qui n'ont pas été faits en public, Dieu ne dévoile pas le croyant. Et Al-Miswan, il reste toujours sur sa position. Et à la fin, Muawiya lui dit, au nom de Dieu, dis-moi la vérité. Et toi, tu ne te trompes pas? Tu ne fais pas, toi, des erreurs et des péchés? Il lui dit, oui. Mais c'est entre Dieu et moi. Il dit, et nous alors? Pourquoi ça ne serait pas entre Dieu et nous? Il lui dit, comme toi tu demandes pardon à Dieu quand tu fais un péché, nous aussi nous demandons pardon et nous avons espoir que Dieu va nous pardonner. Et depuis ce jour-là, Al-Miswan n'a plus délié ça. Il n'a plus osé dire un mal de Muawiya en public. Lorsqu'il voulait le conseiller, il allait le voir en tête à tête et lui donner un conseil. En fait, Al-Miswan, sa démarche n'était pas bonne. Parce que celui qui veut corriger quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il va le voir, il le corrige. Mais si il délie sa langue et il en parle à tout le monde sauf à la personne concernée, il ne cherche pas à le corriger. En fait, il cherche à le salir, il cherche à le dénigrer. D'accord. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith sahih, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur un gramme de quoi? D'orgueil. Et un homme qui a réagi en disant au prophète, nous tous, nous aimons être bien sapés, être bien habillés. Il dit, non, c'est pas ça l'orgueil. C'est pas chercher à être présentable. L'orgueil, c'est quoi? C'est batarul haq wa ramtun nas. Batarul haq, c'est-à-dire rejeter la vérité. C'est-à-dire tu polémiques, tu t'entêtes, tu sais que t'as tort, mais tu veux pas perdre la face. La vérité, tu la rejettes et tu la... Ou ramtun nas. Ça veut dire quoi, ramtun nas? C'est-à-dire tu es injuste envers les gens dans tes jugements. Mm. Tu ne rends pas César ce qui est à César. C'est eux. C'est ça le kib. C'est ça l'orgueil que la religion condamne. Et celui qui a un gramme, hein, c'est pas des tonnes, cet orgueil dans le cœur, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Soufiane ibn Uyayna, radiallahu anhu, est beaucoup plus sévère dans sa critique de ce genre de personnes qui sont intolérantes. Il dit, ceux qui recherchent les défauts et les manquements des gens ressemblent au porc, le khanazir. D'accord? Pourquoi le khanazir? Il dit, un cochon, quand tu lui sers un plat qui est propre, qui est bon, il n'aime pas. Quand tu lui sers quelque chose de sale, les déchets, ouais, le vomi, les excréments, il les mange avec plaisir. D'accord? De même, il dit, tu peux transmettre 5 ans de sagesse à ce genre de personnes. Si tu te trompes une fois, ils retiennent que l'erreur et ils oublient les 50 sagesses. Comme le porc, hein. Tu lui fais 50 cordons bleus, il ne touche pas. Tu lui mets une poubelle, il la mange. Ah, avec plaisir, etc. Et ça, c'est une maladie. Hein. Et Ibn al-Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah, dans Madarij Salikin, lui aussi, il donne une image. Il dit, ce qui délaisse et ce qui pèse les qualités des gens, et qui ne recherchent que leurs défauts, ressemblent à un porc qui s'attaque aux excréments et qui délaisse les aliments purs. De même, l'être humain, lorsqu'il voit en toi quelque chose de positif, il le tait et le met de côté. Lorsqu'il voit en toi quelque chose de négatif, il le fait fructifier, il le multiplie, il le développe, il en rajoute, et il transmet tout de suite aux autres. Et il y trouve du plaisir. Il y trouve du plaisir. En fait, l'objectif, c'est pas de corriger. L'objectif, c'est de salir.
Donc, l'Afrique Hassan, on va s'opérer, Inch'Allah, une petite pause. On rappelle les coordonnées. 0320-73-59-00. Si vous voulez appeler pour participer, poser une question, il n'y a aucune difficulté. Donc, c'est 0320-73-59-00. On se retrouve dans 5 petites minutes, Inch'Allah.
Appel d'urgence, SOS Gaza. Le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens lance un appel urgent pour venir en aide à la population palestinienne de la bande de Gaza. Le blocus israélien rend la situation humanitaire et alimentaire catastrophique. Agissons rapidement pour répondre à la détresse et à la souffrance des Palestiniens. Nous avons besoin de votre soutien pour briser le sentiment d'abandon et d'indifférence. Avec le CDFP, préservez la dignité des plus vulnérables. Ensemble, rendons la solidarité plus forte. Pour sauver Gaza de l'agonie, envoyez vos dons dès à présent au CBSP SOS Gaza, 37 rue de la Chapelle, 75018, Paris. Contactez-nous par téléphone au 01 55 268 268. Visitez notre site internet www.cbsp.fr.
Retour sur les ondes de Pastel FM, il est 21h24, 0320-73-59-00. Et genre, on va continuer sur notre thématique de ce soir, la tolérance entre les musulmans au niveau de la divergence d'opinion.
La preuve que les savants musulmans et surtout les premières générations, ceux qu'on appelle les salafs salih, nos ancêtres pieux, ils étaient très tolérants. À l'égard de qui ? À l'égard de ceux qui ne partageaient pas toujours les mêmes convictions. Donc c'est pas la divergence dans le domaine des lois, du halal, du haram, ou bien de ce qui est recommandé ou ce qui ne l'est pas. Non. Je parle au niveau de la aqida. Car il y a eu, et il y a encore de la divergence dans la communauté musulmane dans le domaine de la aqida. Et pas seulement dans les branches de la aqida, dans le tronc, dans le usul. Il y a une multitude de sectes. Comment les savants musulmans ont réagi par rapport à ces sectes-là ? Est-ce qu'ils ont été des fanatiques, des intolérants, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils pensaient que la communauté était blanche ou noire ? C'est-à-dire, ça passe ou ça casse ? Est-ce qu'ils ont plutôt opté pour le relativisme ? C'est-à-dire, l'être humain, il est là, le musulman, il est là. On est obligé de faire avec lui, avec ses qualités, ses défauts. Et nous allons regarder ses qualités et ses défauts. Nous allons dénoncer ce qui ne va pas chez lui, lorsque c'est dangereux, lorsque c'est grave, pour éviter que les gens tombent dans l'égarement, mais nous allons aussi mettre en évidence ses qualités et profiter de ses qualités. Vous avez compris, c'est pas l'exclusion, l'excommunication. C'est on vit ensemble avec nos divergences et on essaie de trouver un terrain d'entente, essayer de trouver chez l'autre ce qui va pour l'additionner à ce qui va chez nous pour que tout le monde avance. C'est la philosophie coranique. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraînez-vous. Dans quel domaine ? Dans la piété, la taqwa, donc dans la religiosité, mais pas seulement dans ce domaine. Parce que ça peut uniquement unifier certains musulmans qui ont les mêmes fondements, les mêmes convictions. Non, Dieu nous dit, unissez-vous aussi dans le birr, le bien. Parce que je peux très bien ne pas m'entendre avec toi dans certains domaines religieux, mais je ne vais pas diverger avec toi sur le bien fondé de donner à manger à celui qui a faim. Car tous les musulmans, quelle que soit leur divergence, au niveau de la aqida, au niveau du fiqh, ils ne sont pas divergents sur, vous savez, dans un domaine. Ils peuvent être divergents dans la aqida, dans le fiqh, c'est-à-dire la aqida, la croyance, les croyances, et ça peut aller d'un extrême à l'autre. Ça peut aller, nous, à le sunna wal jama'a qui disons que le destin est une vérité, et nos frères musulmans qu'on appelle al-qadariya qui nient le destin, qui disent il n'y a pas de destin, l'être humain est libre à 100%, fait ce qu'il veut. Donc c'est carrément l'opposé, vous êtes d'accord. Donc on peut être divergent dans la aqidah, on peut être divergent dans le halal et le haram. Ceux qui te disent cette chose est halal et les autres qui disent le contraire. Même la validité de la prière, ceux qui disent si tu fais ça dans ta prière est nulle, les autres qui disent non, elle est valable. Ok. Mais les musulmans ne divergent pas dans un domaine. Vous savez lequel ? Les bonnes mœurs. Le bien. Tous les musulmans sont d'accord que mentir, c'est pas bien. Que voler, c'est pas bien. Que insulter, c'est pas bien. Et ils sont tous d'accord que donner à manger à celui qui a faim, c'est bien. Être juste, c'est bien. Vous savez pourquoi ? Parce que ça, c'est dans la nature de l'être humain. Hein, les bonnes mœurs, les bons caractères, c'est Allah nous a créé comme ça. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith. Dieu m'a envoyé pour faire quoi ? Mais au tamimima, le karim al-akhlaq. Pour parachever quoi ? De l'existence. Avant l'islam, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le Coran et la Sunna, on a quoi ? On a des êtres humains qui ont quoi ? Qui ont des qualités ? Qui ont une propension à faire le bien. Il y a chez les êtres humains, c'est Kant qui le disait, hein, une raison pure, une morale.
D'accord. Raison pure.
Très bien. Ça, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde partage ce socle. Ben moi, je suis venu développer. Ce qui est bon, je le conserve. J'essaie même de le transformer en mieux. Ce qui est bon, j'essaie d'en faire l'excellent. Ce qui est mauvais, je l'enlève. Donc, qu'est-ce que doivent faire les musulmans ? Ils doivent être animés par ce souhait d'accepter de tolérer l'autre, quels que soient ses égarements. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a une règle chez les savants du hadith, les spécialistes de la transmission des textes, qui dit « Lana sidquhu wa alayhi bid'atuh ». Celui qui est dans la bida, c'est-à-dire dans l'innovation, se trompe. On est d'accord. Mais ce n'est pas parce que il commet l'innovation que nous n'allons pas reconnaître chez lui son caractère qui est la véracité, l'honnêteté, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends de lui ce qui est bon et ce qu'il estime être mauvais. Je le critique, je ne le prends pas. C'est pour cela, nos savants musulmans, les rapporteurs de hadith, ceux qui compilent, les compilateurs, les muhaddithoun, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, etc. Quand ils collectent les hadiths, leur travail est le suivant. C'est, ils vont à la rencontre des savants, ils vont à la rencontre des narrateurs. Ceux qui ont appris de leur maître, les maîtres ont appris de leur maître, et ainsi de suite jusqu'au prophète. Ces rouats, ces narrateurs, sont des êtres humains qui ont des convictions, des pratiques qui parfois divergent et diffèrent. Qu'est-ce qui intéressait les narrateurs ? Deux choses. C'est la religiosité de la personne et ses capacités intellectuelles. Elle a un tout en tant que. La adala, c'est que ce soit quelqu'un d'honnête, de correct. Et d'autre, c'est que soit quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, hein, qui sait lire, qui sait écrire, qui sait transmettre, qui sait différencier, et bref, les capacités intellectuelles. Est-ce que, si on a un narrateur qui diverge avec nous dans certains domaines, est-ce qu'on doit l'effacer, l'éliminer? Si on faisait ça, il ne resterait plus beaucoup de narrateurs. On éliminerait beaucoup de hadiths. C'est pour ça, quand vous prenez le sahih de l'imam Bukhari, l'imam Bukhari, je veux dire, il a des critères qui sont très, très sévères. Hein. Il a mis la barre haute. Ben, vous trouvez parmi les narrateurs, hein, chez l'imam Bukhari, à peu près 80. Hein, Rouat, 80. Pas les compagnons, ceux qui viennent après. Parce que les compagnons, on est d'accord qu'ils sont tous authentiques et ils sont tous ok. Les autres narrateurs qui viennent après, hein, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, il y en a à peu près 80 qui adhéraient aux sectes qui existaient à l'époque. C'est-à-dire les Khawarij, mm-hmm. hein, les dissidents, ceux qui excommunient le reste de la communauté, ceux qui ont pris les armes contre les Sahaba, ceux qui ont dit que verser le sang d'un croyant était halal. Si tu as Al-Mu'tazila, les rationalistes qui nient, qui rejettent 90% de la sunna au nom de la raison, au nom de leur intelligence. Tu as Ar-Rawafid, aujourd'hui on est des chiites, qui rejettent beaucoup de compagnons, etc. Tu as le Qadariya qui nie le destin. Tu as au contraire le Jibriya qui dit que l'être humain n'a pas de liberté. Tu as le Jahmiya qui discute. Bref, je peux vous en citer une dizaine de sectes qui existent à l'époque. Ces individus, ces savants qui ont opté pour ces avis juridiques, etc. Est-ce qu'on doit les mettre à la poubelle parce qu'ils divergent avec nous dans certains domaines? Non! Bukhari n'a pas fait ça. Il a dit, ils sont tous d'accord que le mensonge est haram. Et on est tous d'accord qu'ils sont pieux à leur manière, certes, mais ils sont sincères dans leur piété. Donc, si les conditions d'intelligence, les capacités intellectuelles de la personne sont réunies, et il a une morale, il est honnête, et qu'un hadith est transmis de manière sur un certain critère de génération en génération, y compris les critères de transmission, j'accepte le hadith. Et c'est vrai, quand vous prenez le Bukhari, ben vous allez trouver des gens qui... Et on a fait la remarque à l'imam Malik ibn Anas al-Zirah, qui lui aussi est quelqu'un de très sévère dans la sélection des hadiths, à propos de Daoud ibn al-Husayn. On lui dit, comment tu l'acceptes comme narrateur alors qu'il fait partie d'une secte? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet homme Daoud ibn Hussein préfère tomber du haut du ciel et s'écraser contre le sol que de mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est quelqu'un digne de confiance, même s'il a cette bida, d'accord? Et moi c'est ça qui m'intéresse, sa bida. Peut-être que il n'est pas conscient. D'ailleurs, c'est sûr qu'il n'est pas conscient. Parce que s'il était conscient qu'il se trompait, reviendrait. Mmh. Vous comprenez c'est quelqu'un. Il faut ne pas être sincère pour s'entêter dans le mensonge et dans l'égarement. Donc celui qui a fait un choix, c'est parce qu'il l'a fait en connaissance de cause, c'est parce que son ijtihad, c'est-à-dire sa réflexion intellectuelle, l'a mené à cela. Et moi, le contraire. Donc il faut relativiser et dire que bah, cet être humain, il est sincère autant que moi dans la quête de la vérité. Il pense avoir abouti comme moi je pense avoir abouti, et je l'accepte avec ses qualités, même si j'estime qu'il s'est trompé dans ce domaine. J'ai pas réussi à le convaincre comme lui n'arrive pas à me convaincre. Même chose, Thawr ibn Zayd, comme Daoud ibn Hussein, qui niait le destin et qui faisait partie des Khawarij, hein, sont reconnus comme des narrateurs fidèles. Ils font partie, quand vous prenez le livre de Hadith, de la chaîne des Hadith, des grands narrateurs que l'on rapporte. Hein. Alors pourquoi est-ce que l'imam Malik et l'imam Bukhari et d'autres n'ont pas dit ce Hadith, il est nul? Parce que l'un des rapporteurs. Parce qu'ils étaient tolérants. Ils savaient faire la part des choses. Nous, notre intolérance nous pousse à l'aveuglement. C'est soit la personne, elle est à nos yeux 100% nickel, à nos yeux j'ai bien dit, hein. Et à ce moment-là, je ne vois plus ses erreurs et ses défauts, ou soit si elle ne correspond pas à 100% à ce que j'aime, à ce que je veux, je ne vois que des erreurs et des défauts, elle n'a plus de qualité. C'est de l'extrémisme, c'est de l'intolérance, c'est une manière de voir les choses qui mène à quoi ? Qui mène au rejet de l'autre, qui mène à la haine, qui mène à la dispute, qui mène à la discorde dans la communauté. Et on n'avance pas comme ça, au contraire, on recule. On pourrait citer hein, des dizaines d'exemples comme ça, et celui qui veut, par exemple, Yahya ibn Ma'in, qui est le grand imam dans la critique de la transmission des textes, on lui a posé la question à propos de Saïd ibn Khusayyim al-Hilali, un chiite pur et dur. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il est thiqa, il est digne de confiance. C'est-à-dire, c'est un bon narrateur, je l'accepte, je le mets dans ma liste des bons narrateurs. Je n'ai pas à le rejeter, je n'ai pas à le condamner, parce que je ne partage pas avec lui. 81 narrateurs font partie de la longue liste des narrateurs retenus par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. 81, vous vous rendez compte ? Et ce sont des gens, des rawafides, comme on dit, qui sont chiites, des qadariyas, de toutes les tendances de l'époque. Hein?
Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour le moindre, il y a une différence au niveau de la communauté.
C'est fini,
ici, hein?
Fini.
Et c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on peut entendre et aux questions qui sont posées par beaucoup de
auditeurs. J'ai envie d'en passer une parce que c'est le moment, c'est la diversité qu'il y a dans les listes électorales.
Il fallait que j'en fasse
Regardez ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Minhaj As-Sunna An-Nabawiyya. Donc, le chemin de la Sunna prophétique, c'est le chemin droit, dans le deuxième tome, à la page 342, il dit une parole extraordinaire en or. Il dit Wallah, qad amarana an la naqula alayhi illa al-haq. Dieu nous a ordonné de ne dire que la vérité à son sujet. Wa an la naqula alayhi illa bi'ilm. Et de ne parler qu'en connaissance de cause, avec science. Hein? Celui qui ne sait pas, il se tait. Il n'a pas à parler de Dieu, de la religion, s'il ne sait pas. Wa amarana bil adli wal qist. Il nous a ordonné d'être juste, d'être impartial. On est d'accord. Bil adli équitable. Fala yajuzu lana idha qala yahudiyun. أو نصراني فضلا عن الرافض قولا فيه الحق أن نتركه أو نرده كله et il ne nous est pas permis lorsqu'un juif ou un chrétien a fortiori un chiite lorsque ces personnes disent la vérité de rejeter leur vérité c'est pas logique, c'est pas juste hein? Donc nous prenons la vérité de tout le monde sans tenir compte de ses convictions. Ses convictions ne le regardent pas. C'est son choix. D'accord ? Dieu, c'est lui qui juge les gens et c'est lui qui récompense ou c'est lui qui punit. Nous, là où se trouve la vérité, on l'apprend. On fait la part des choses. Ce que nous estimons être vrai, on le prend. Ce que nous estimons être erroné, on le met de côté. C'est beau ou c'est pas beau ?
Oui, c'est beau.
C'est beau surtout qu'on fait dire à une Netanyah ce qu'il n'a jamais dit Mskine, en le faisant passer pour un intégriste fondamentaliste qui terrorise les gens. Mais Netanyah, elle est d'une tolérance extraordinaire, mais il est d'une pertinence intellectuelle, et c'est ça qui fait son charme, bah, qui le pousse à quoi ? À discuter les avis des autres. Vous vous rendez compte, c'est Netanyah. Il écrit dans tous les domaines. Et avant d'écrire, c'est ce qu'il a d'abord fait, il a d'abord étudié. Mais d'abord, appris. Il est allé apprendre la philosophie grecque pour pouvoir la discuter, pour pouvoir la critiquer.
Bien sûr.
C'est pas il parle de ce qu'il ne sait pas, parce qu'il va se ridiculiser. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il tamise. Il dit ça c'est bon, ça correspond à ce que je pense être la vérité de Dieu et du prophète.
C'est vrai qu'il faut connaître Ibn Taymiyyah. Il vaut mieux lire aussi Yahya Mishur, qui est déjà venu dans la métropole pour faire des conférences. C'est vrai que on peut entendre le savant Ibn Taymiyyah, enfin référencé par de nombreux musulmans qui malheureusement a priori ne connaissent pas Ibn Taymiyyah.
Donc, oui, regardez ce que dit Ibn Taymiyyah, il est trop fort, hein. C'est bon. Et il dit ça dans son livre Al-Furqan bayn al-Haq wa al-Batil, la différence entre le vrai et le faux. Il dit, il reconnaît que certains musulmans que lui considère comme étant des mubtadi'a, c'est-à-dire des gens qui commettent des hérésies, des innovations. D'accord ? Il n'est pas d'accord avec eux sur tout. Mais Ibn Taymiyyah est juste. C'est parce que ils sont dans la bid'a qu'il les efface, il les élimine. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, et beaucoup de musulmans mubtadi'a, donc qui sont pour lui égarés dans certains domaines, tels les Rafida, les chiites, les Jahmiya, hein, c'était des sectes de l'époque, et d'autres, donc beaucoup de ces gens, sont allés dans des pays non musulmans, et ils ont fait des efforts, si bien que des gens se sont convertis à l'islam, grâce à eux. Et ces gens ont quitté la mécréance pour entrer dans l'islam. Mais lequel d'islam ? Leur islam, c'est-à-dire leur islam entaché de bid'ah. D'accord ? Puisque le chiite, quand il a prêché le non-musulman, et ce non-musulman s'est converti à quoi ? Il s'est converti à l'islam chiite. Mm-hmm. Ibn Taymiyyah considère comme étant un islam entaché d'innovation. C'est ça ?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'il dit ? Wa huwa khayrun min an yakuna kuffara. Il vaut mieux qu'il soit musulman comme ça que... D'accord ? Allez, regardez la logique. Il pèse le pour et le contre et il voit que, ben non, je préfère ceci. Et c'est ça qu'il faut. Hein. Il faut être tolérant pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir voir chez l'autre le positif. Hein. Ne pas voir uniquement le négatif. En fait, qui c'est qui voit que le négatif chez l'autre ? C'est celui qui est malade. C'est celui qui est imbu de sa personne. Il veut toujours avoir raison. C'est pas possible que l'autre ait raison, et quand l'autre parle, ben il faut toujours qu'il fasse une remarque sur ce qu'il dit, pour en fait mettre sa couche, afin de prouver que sans lui, il n'y a pas de vérité, sans lui, c'est la fin du monde. L'islam n'existe que grâce à lui.
Voilà, comme on fait grâce à ça, 21h43, on s'opère, Inch'Allah, une petite pause, et on se retrouve pour la dernière partie de
le comité de bienfaisance et de la secours palestinienne, le CBSP, urgent pour venir en aide à la population palestinienne de la bande de Gaza. Le blocus israélien rend la situation humanitaire et alimentaire catastrophique. Agissons rapidement pour répondre à la détresse et à la souffrance des Palestiniens. Avec le CBSP, préservez la dignité des plus vulnérables. Pour sauver Gaza de l'agonie, envoyez vos dons dès à présent au CBSP SOS Gaza, 37 rue de la Chapelle, 75 018 Paris, 01 55 268 268 ou par internet www.cbsp.fr.
De retour sur les ondes de Pastel FM. Donc, on va reprendre l'antenne, ça va conclure en tout cas sur l'émission. Et la thématique d'aujourd'hui dans la divergence entre la tolérance entre les musulmans, divergence d'opinion. Et il y a une personne en direct, c'est bien ça, mais on va la prendre maintenant.
Oui, allô ?
Allô ?
Assalamu alaykoum.
Alaykoum assalam.
Assalamu alaykoum.
On vous écoute, vous êtes en direct de Pastel FM.
D'accord. Bonsoir, je me présente, c'est Monsieur Mokhtari Mohamed de la mosquée de Villeneuve d'Ascq. J'appelle pour parler de la soirée qui se déroulera ce mardi-ci à l'espace Concorde à Villeneuve d'Ascq. Donc c'est une rencontre dans l'esprit du vivre ensemble. C'est une soirée concoctée par la communauté musulmane de Villeneuve d'Ascq avec la communauté chrétienne catholique de Villeneuve d'Ascq et la communauté catholique de Mons. C'est une soirée qui se déroulera à la salle Concorde de 19h30 à 21h30 dans l'esprit, c'est l'esprit de la prière pour la paix. Dans l'esprit de la prière d'Assise qui date depuis maintenant 22 ans et dans laquelle les représentants de la communauté musulmane comme les représentants de la communauté chrétienne et d'autres représentants de communautés religieuses seront présentes pour faire la prière et chacun dans sa tradition et dans sa culture pour prier pour la paix, que ce soit dans nos villes ou bien dans le monde entier. Notre esprit, c'est un esprit qui est un esprit de partage où non seulement les représentants de religion qui se présente aux représentants d'organisations qui se rencontrent, mais plutôt dans un esprit de jeter le pont entre les individus qui vivent dans des communautés religieuses différentes, mais qui partagent un même territoire, notamment en l'occurrence c'est le territoire de Villeneuve-d'Ascq. Mais cette expérience peut être élargi un peu plus loin, en parlant de la ville de Mons, et puis les villes de Roubaix, Tourcoing, Lille, tout ce qui est dans nos environs, les environs, tout le monde est invité. D'ailleurs, ça s'inscrit dans ce que nous avons annoncé pendant le Fistic Beer, la fête que nous avons faite le 24 décembre à la même salle Concorde. Donc, ça a été annoncé, puis aujourd'hui, on confirme que ça va se faire, Inch'Allah, ce mardi de 19h30 à 21h30. Donc, à l'heure du jour, donc, ça serait un mot du représentant de l'Église catholique, comme un mot de notre imam de la mosquée de Villeneuve-d'Ascq, Ahmed Mektar. Ensuite, suivi par plusieurs chorales, la chorale de la mosquée de Villeneuve-d'Ascq, la chorale du Sirkama, que tout le monde connaît assez bien maintenant, notre groupe qui est en... qui avance, qui est en vogue, c'est Alef Yerdaf, le groupe de Lille, Villeneuve-d'Ascq, Roubaix-Tourcoing, plus encore d'autres enfants qui vont se présenter pour faire des poésies, des dessins. Ensuite, à côté de ça, la communauté chrétienne présentera des chorales aussi, avec notamment une communauté chrétienne, je ne sais pas exactement laquelle, mais qui va présenter un gospel, plus des poésies qui seront dites. Et puis la soirée se terminera par un pot de l'amitié durant lequel on va partager du thé, du café, du lait, des dattes et des gâteaux. Donc nous invitons tous les auditeurs à venir participer massivement ce mardi-ci de 19h30 à 21h30 à la salle Concorde. Tout le monde est bien invité. Mais avant de vous laisser l'antenne, je passerai Raouf, qui est le responsable culturel de l'association ACF de la mosquée de Villeneuve-d'Ascq, pour parler du voyage culturel qui va se dérouler pendant les vacances d'avril en Andalousie. Je vous laisse avec Raouf.
Shukran Mohamed.
Merci.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ici Raouf Rahmania de l'association ACF de Villeneuve-d'Ascq. Donc je tenais à vous présenter un peu notre projet. C'est un voyage qu'on organise pour l'Andalousie qui s'intitule Sur les traces d'Averroès. La date du voyage c'est du 4 avril au 12 avril. Donc c'est un voyage organisé par la seule mosquée de Villeneuve-d'Ascq. C'est un circuit où on va visiter les villes de Grenade, Cordoba et Séville, avec une escale à Barcelone. Donc le tarif du voyage est 254 euros par personne. Ce prix-là ne comprend pas les repas. Sinon, l'hôtel sera à Grenade, d'où on partira pour nos excursions. Ce tarif comprend bien sûr le voyage aller-retour, les déplacements entre les grandes villes, les nuits d'hôtel durant le séjour à Grenade avec formule petit-déjeuner. Sinon, comme je disais, le repas du midi et du soir sont à la charge de chacun et le forfait des visites est d'environ 30 euros. Donc c'est l'occasion de visiter la civilisation que tu connais un peu mieux que nous, qui s'est installée là-bas pendant plus de 7 siècles, où on a pu vivre ensemble dans un esprit de tolérance. Et c'est un fort message que l'on cherche à transmettre à nos enfants et à nos frères et sœurs. Donc c'est la première semaine des vacances de Pâques et les places sont limitées. Donc j'espère que...
Donc on téléphone à qui pour réserver?
Donc on téléphone, je vous donne deux numéros de téléphone. Donc 06 62 86 69 29. C'est Monsieur El Mokhtari. Le deuxième c'est Madame El Mokhtari, 06 63 33 10 45. Donc le téléphone 06 62 86 69 29, sinon 06 63 33 10 45.
Voilà. Okay. Merci beaucoup. Inch'Allah, vous pourrez appeler l'information, en tout cas pour ce mardi, effectivement, conférence, comme vous l'avez dit, salle Concorde à Villeneuve-d'Ascq, à partir de 19h30. Hassan, on va conclure, il est 21h55.
On va conclure pour ce soir, mais
on continuera Inch'Allah
pour la prochaine fois. Il est encore long. On a demandé à Abdelhamed Ibn Mahdi. Donc, peut-être que ça ne vous dit rien, mais bon, pour les spécialistes du hadith, c'est comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son savoir et sa compétence, on a dit, est-ce qu'on doit retenir un narrateur comme étant fiable alors qu'il a commis 10 erreurs dans sa transmission des hadiths. Et il a dit oui, c'est parce qu'il s'est trompé 10 fois qu'on doit le mettre de côté. Il a dit celui qui s'est trompé 20 fois, il a dit aussi. Et 30 fois, il a dit aussi. Et 40 fois aussi. Et 50. Il lui a dit, mais bien sûr, car ce qui doit nous étonner, ce n'est pas celui qui rapporte les hadiths qui se trompe, mais c'est celui qui les rapporte et qui ne se trompe pas. Ça, c'est l'exception, celui qui ne fait pas d'erreur. Mais sinon, tous les narrateurs, qui sont des gens fiables, ont commis des erreurs. Donc, si on devait jeter, éliminer quelqu'un parce qu'il s'est trompé une fois, mais il ne resterait plus personne. Même les sahabas, on va les éliminer. Parce que les sahabas sont des êtres humains. Ils ne sont pas ma'asoumoun. Ils ne sont pas parfaits. Il n'y a que les prophètes qui sont parfaits. Après les prophètes, tous les êtres humains, les compagnons les premiers jusqu'à la fin du temps, sont des êtres humains, sujets à l'erreur, sujets à l'oubli, sujets, voire même à l'égarement. On peut s'égarer et ensuite revenir, voire même sujets à l'apostasie. On peut tomber dans la mécréance et ensuite revenir dans l'islam.
Tant qu'on est vivant.
C'est écrit dans le Coran, hein. Ceux qui tombent dans l'apostasie et qui meurent dans cet état. Sont mal amis à tout, qui ne se sont pas repentis. C'est-à-dire que tu peux avoir quitté l'islam et tu es revenu et c'est bon, c'est passé, c'est accepté. Donc, la tolérance veut qu'on s'accepte en tant que musulman, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos manquements, quels que soient nos égarements. L'intolérance, c'est penser que nous sommes les seuls à avoir raison, à avoir toujours raison, à ne jamais se tromper, ne jamais s'égarer. Ça, c'est le début de la fin. C'est le kibre de Shaitan qui pensait qu'il était meilleur que tout le monde, et c'est ce qui l'a égaré. Celui qui relativise et qui dit Raïsa wa bihtamilul khata. Je pense avoir raison, mais il se peut que je me trompe. Je pense que tu as tort, mais peut-être que tu as raison aussi. Capable de relativiser. Hein, c'est ça qui va faire qu'on va s'accepter mutuellement et qu'on va trouver un terrain d'entente pour s'entraider dans quoi ? Dans la piété. Et si on n'arrive pas à s'entraider dans la piété, ben on s'entraide dans le bien pour qu'on se fasse du bien mutuellement et qu'on fasse du bien aux autres. Car rien de pire si ce n'est que l'on se renferme et que l'on vive en autarcie intellectuelle ou carrément physique, qu'on se marginalise, si bien que l'on rejette les créatures de Dieu, car le hadith par le hadith, les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont le plus utiles. À qui ? Aux créatures de Dieu. Et pour être utile aux créatures de Dieu, il faudrait d'abord les accepter, les créatures de Dieu. Il faudrait d'abord trouver chez elle du charme.
Voilà. Barakallahu fik, jazakallahu fik. Hassan, c'est vrai que Aïssa n'est pas là ce soir, il aurait bien aimé effectivement être là. Vous parlez souvent d'éthique, du désaccord entre les musulmans, se mettre d'accord sur quoi on discute et dans quelles conditions on discute. Barakallahu fik, inchallah, on continuera sur cette thématique la prochaine fois. On rappelle vendredi prochain à partir de 19h30 à la mosquée à Boubacar. C'est bien simple,
en place Sénère, face à la condition publique, pas loin du commissariat de Roubaix, pas loin de ce que vous voulez. Tous les chemins mènent à la mosquée à Boubacar. Donc à côté de 19h30, comptons 20h pour la prise avec Passé les Femmes, qu'on remercie déjà d'avance. Cher Zakaria, bon, Hassan connaît,
Zakaria Sadiqi. Pour l'information.
Je vais acheter Hassan Fer, son CV.
Un descendant d'Abou Bakr Sadiq. Zakaria Sadiqi fait partie
de la lignée
d'Abou Bakr Sadiq, radiallahu anhu. Un vrai chef, au sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est maître. Et son savoir, il a puisé de la source pure, directement des savants pieux et des savants très 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 compétents. Et c'est quelqu'un de très compétent et de sage. Il n'a pas seulement la science, mais il a la hikma. Et c'est très important. Car si Dieu la connaissance n'était pas capable de la transmettre, ça ne sert à rien.
On a cette chance aussi qu'il soit aussi francophone pour en français, il faut bien le rappeler. Hein. Donc venez nombreux, le thème sera pourquoi l'homme a-t-il été créé.
Donc venez nombreux, nombreuses, ouvert encore une fois jeudi, pratiquants, non pratiquants, musulmans, non musulmans. Marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus à la mosquée du Grand Afrique.
On se retrouve inchallah pour un direct la semaine prochaine. Et restez à l'antenne, émission Safina, le chant religieux. Salam alaikum.
Appel d'urgence, SOS Gaza. Le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens lance un appel urgent pour venir en aide à la population palestinienne de la bande de Gaza. Le blocus israélien rend la situation humanitaire et alimentaire catastrophique. Agissons rapidement pour répondre à la détresse et à la souffrance des Palestiniens. Nous avons besoin de votre soutien pour briser le sentiment d'abandon et d'indifférence. Avec le CBSP, préservez la dignité des plus vulnérables. Ensemble, rendons la solidarité plus forte. Pour sauver Gaza de l'agonie, envoyez vos dons dès à présent au CDSP SOS Gaza, 37 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Contactez-nous par téléphone au 01 55 268 268. 01 55 268 268. Visitez notre site internet www.cdsp.fr.